L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Nous avons grande joie à vous retrouver pour aborder un thème qui nous est cher. La semaine dernière, nous avons, Maud, animé une émission sur évangéliser à la suite du Christ. Et nous allons aujourd'hui essayer de suivre davantage l'œuvre de l'Esprit-Saint dans l'évangélisation et dans la mission à la fois de tout chrétien, mais aussi du couple. Alors pour cela, nous allons prendre un texte chez le chantre de l'Esprit-Saint, qui est notre grand frère Jean.
Au chapitre 16. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer le Paraclet. Si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Mais je pars et je vous l'enverrai. Quand il viendra, l'Esprit de vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais ce qu'il entendra, il le dira. Lui vous guidera vers la vérité tout entière. C'est de mon bien qu'il recevra et il vous l'expliquera. Je demanderai à mon Père de vous envoyer un autre protecteur qui sera toujours avec vous.
Ah, c'est toujours magnifique, tellement émouvant de lire Jean avec cette qui témoigne une telle intimité et une telle connaissance du mystère même de Dieu, et le mystère du Christ et de l'Esprit-Saint qui agit dans le monde et qui agit dans l'Église. Et on voit bien, Maud, qu'au travers de ce texte, il y a vraiment deux étapes dans le ministère qui est envoyé, qui est confié aux apôtres. Le ministère de l'Esprit-Saint est profondément articulé à celui du Christ et à la fois il est différent. Le Christ est clair, il faut que je parte pour que vous puissiez recevoir le Paraclet. Et le Paraclet va accomplir des choses que moi je n'ai pas accomplies, mais il est en profonde communion avec moi. Il est mandaté par le Père. Il vous révélera, il vous conduira à la vérité tout entière. Moi je vous ai dit toute une série de choses et l'Esprit-Saint va vous révéler aussi toute une série de choses. Et c'est pour ça que pour le missionnaire, l'accueil de l'Esprit-Saint est aussi important que la connaissance du Christ. Et très souvent dans l'Église, le Christ, on commence à peu près à comprendre certaines choses, mais l'Esprit-Saint, c'est l'invertébré gazeux, comme on l'a dit.
Voilà, donc il faut agir avec les deux mains du Père, que sont le Christ et l'Esprit-Saint, pour partir en mission. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, notamment dans les Actes et les Épîtres, Saint Paul, ou le rédacteur des Actes des Apôtres, excusez-moi, a insisté justement sur cette action de l'Esprit-Saint. On le voit tout le temps agir. Il est nommé personnellement pour celui qui conduit, qui empêche, qui établit, qui pousse, qui inspire. Alors Paul dit « L'Esprit-Saint et nous avons décidé que », ou alors il dit « L'Esprit-Saint nous a empêchés d'aller à tel endroit ». Et l'Esprit-Saint, poussé par l'Esprit-Saint, un tel ou un tel a fait ceci ou cela.
Vraiment une personne agissante. Ce n'est pas un état d'esprit, c'est pas une philosophie, c'est pas une. Les chrétiens, on veut bien accepter le dogme, mais on ne saisit pas combien c'est une personne qui agit très concrètement.
Voilà, et l'Esprit-Saint, c'est celui qui va nous donner l'audace, l'assurance, la force de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans nos vies et qui va nous aider justement à relire les merveilles du Seigneur dans notre vie et dans les vies que nous voyons autour de nous pour être capable de rendre compte et de témoigner. Et l'Esprit-Saint, en fait, va nous habiter et nous, je dirais, impulser de l'intérieur. C'est la force de l'Esprit qui va nous être donnée. C'est très étonnant d'ailleurs quand, en évangélisation, quand on annonce la parole, il y a des moments où on sent comme ça le passage de l'Esprit. On voit que les cœurs sont attentifs, il y a quelque chose qui est en train de se passer et on se surprend souvent à dire des choses parfois qu'on n'avait même pas conçues dans notre tête. Les paroles vont plus vite que ce qu'on a pu penser et on voit que là c'est l'Esprit qui prend le manche quelque part et qui est en train d'agir et directement de toucher les cœurs. Et ça c'est une expérience extraordinaire qui va nous aider aussi à apprendre comment missionner dans la docilité à l'Esprit-Saint.
Alors, pour découvrir davantage l'action, l'œuvre de l'Esprit-Saint en nos vies et dans la mission, il faut écouter Paul VI, qui a écrit cette encyclique extraordinaire sur l'évangélisation dans le monde moderne pour marquer les 10 ans de la fin du Concile Vatican II. Encyclique qui, malheureusement, à l'époque, a été très décriée, mais qui aujourd'hui est aussi profondément redécouverte, aussi avec les textes de Jean-Paul II. Et donc, voilà, on va essayer de le citer, parce que c'est vraiment, c'est de l'or en barre. C'est de l'or en barre, c'est du nectar. Voilà. Les meilleures techniques d'évangélisation ne seraient remplacer l'action discrète de l'Esprit-Saint. Sans lui, la plus convaincante des dialectiques est impuissante sur l'esprit des hommes, car c'est lui, l'Esprit, qui, dans le très fond des consciences, fait accepter et comprendre la parole du salut. C'est ciselé, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint qui fait fructifier la parole et la prédication.
Et je continue. J'exhorte les évangélisateurs à prier sans cesse l'Esprit-Saint avec foi et ferveur pour se laisser prudemment guider par lui comme l'inspirateur décisif de leurs plans, de leurs initiatives et de leur activité évangélisatrice.
Voilà, c'est vraiment... et pour conclure, il dit « L'Esprit-Saint est l'agent principal de l'évangélisation. » Donc, nous voulons missionner, nous sommes interpellés par la mission, etc. Alors, découvrons la puissance transformante, agissante de l'Esprit-Saint, qui est l'agent principal. Et on l'a bien vu à la Pentecôte. Et Jean-Paul II reprendra cela en disant... L'Esprit-Saint est le protagoniste de la mission, le protagoniste même de la mission.
Et c'est pour ça que l'Esprit-Saint est tellement important dans notre mission que si jamais nous n'avons pas reçu cet Esprit-Saint et pris le temps de l'accueillir et d'apprendre à être docile, quelque part il vaut mieux rester chez nous ou plutôt rester avec des frères jusqu'à ce qu'on vive de cet Esprit et qu'on soit capable de rayonner et d'annoncer de façon ajustée. Rappelons-nous ce que le Christ disait. Le Christ disait avant sa mort.
Après sa mort, avant son départ voilà. À l'ascension.
Restez en ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et restez ensemble. Et c'est vous allez recevoir l'Esprit Saint ensemble dans la prière. Et à ce moment-là, vous pourrez partir évangéliser.
Voilà. Et je crois que c'est très important. Nous avons, mais alors depuis 25 ans, vu tellement de situations différentes, de jeunes, de vieux, d'intellectuels, de pauvres, etc., etc., qui vraiment étaient tout tremblants, ne savaient pas quelle était la mission, etc. Mais quand à un moment, ils ont décidé, ils se sont rendus compte que c'était important qu'ils puissent recevoir la plénitude du Saint-Esprit pour partir en mission, et à ce moment-là, ils ont fait ce travail d'accueil de l'effusion de l'Esprit-Saint, de découverte de ce qu'il est, de comment on l'accueille dans sa vie, comment on le prie, mais on a vu comme un turbo, je dirais, accélérer leur vie chrétienne, faire mûrir leurs ailes, transformer leur vie. C'est vraiment lui qui est le moteur principal de cette dynamique missionnaire. Oui. De même pour des choses très simples, soit sur les grandes missions, mais même par rapport à leurs enfants, par rapport à nos enfants. Quand à un moment nous sommes revêtus de l'Esprit-Saint, nous nous rendons compte que nous avons une parole d'autant plus pertinente, adaptée, persuasive, qui touche le cœur de nos enfants pour leur annoncer le Christ.
Oui, dans un autre texte, dans la poursuite de ce qu'on disait tout à l'heure, quand ils furent remplis de l'Esprit-Saint, ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Acte 4.
L'assurance.
Avec assurance. Et ça, nous l'avons vu combien de fois.
C'est quoi l'assurance, Maud, dans l'Esprit-Saint ?
L'assurance dans l'Esprit-Saint, c'est justement cette certitude que le Christ est vivant et vainqueur, et que, remplis par l'Esprit-Saint, nous avons la force d'en haut. Ce n'est pas nos pauvres forces qui vont annoncer, c'est l'Esprit-Saint. Et nous l'avons vu de maintes fois, même des personnes qui avaient des difficultés d'élocution ou autres, en train d'annoncer le Christ, tout d'un coup, ils trouvaient des mots, ils avaient des phrases extraordinaires, ils touchaient les cœurs avec une simplicité fabuleuse. Donc, on a vu des personnes transformées par l'annonce, dans l'annonce de la bonne nouvelle, à travers l'expérience de l'Esprit-Saint.
Alors, il y a d'autres paroles qui sont très, très éloquentes pour démontrer ce rôle irremplaçable, déterminant la porte d'entrée de la mission. C'est les propos, par exemple, que tient Paul aux Corinthiens, où il rend compte de sa mission et il dit « Ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. » Il ne s'agit pas d'une dialectique, il ne s'agit pas d'une conférence, il ne s'agit pas d'un discours de la sagesse du monde. C'était une démonstration d'esprit et de puissance de Dieu. Vous rendez compte, la parole, la mission, qui est une démonstration de l'action de l'Esprit-Saint. Comme quoi, vous voyez, l'Esprit-Saint, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un truc vague, etc., etc. C'est vraiment une personne qui est agissante, qui démontre son action par les événements qui vont se passer et qui vont opérer.
Voilà, et on voit l'action de l'Esprit-Saint justement parce qu'il y a cette disproportion entre les paroles et les fruits que ça porte. Et si jamais, après avant nous avoir entendu, les gens nous disent c'est très intéressant, mais il ne se passe rien dans leur cœur, c'est qu'on n'était pas avec l'Esprit-Saint et on a tout raté. L'annonce doit se vivre parfois avec la modestie de nos moyens, mais de toute façon avec la force de l'Esprit.
Avec l'assurance dont tu parles.
Voilà, et alors on voit les fruits de l'Esprit et les cœurs touchés qui sont disproportionnés par rapport à la faiblesse de nos paroles, où parfois on n'est pas des spécialistes ni de l'exégèse ni rien du tout, mais simplement on rend compte de l'espérance qui est en nous.
Voilà, donc c'est justement cet Esprit-Saint, pour revenir et finir vraiment sur le cœur de notre couple, c'est cet Esprit-Saint qui est invoqué au cœur de la célébration de notre sacrement de mariage. Lors de la bénédiction nuptiale des époux, le célébrant invoque l'Esprit-Saint. « Fais descendre sur eux, Seigneur, la grâce de ton Esprit-Saint. » C'est une épiclèse qui est invoquée sur chacun de nos conjoints. Donc nous le recevons de manière particulière dans le sacrement de mariage. Et Jean-Paul II...
Il en parle même comme d'une effusion de l'Esprit-Saint que sont appelés à accueillir les époux lors de cette bénédiction et à renouveler tout au long de leur vie pour sanctifier leur amour et leur union, mais aussi pour faire porter du fruit dans leur mission apostolique. Quelle parole merveilleuse! Voilà, on se retrouve dans un instant.
Voilà pour essayer de mieux comprendre l'action de l'Esprit-Saint aux côtés des missionnaires. C'est plutôt les missionnaires qui sont aux côtés de l'Esprit-Saint d'ailleurs, pourrait-on dire. Et nous émerveillons de voir combien l'Esprit-Saint est l'agent principal de l'évangélisation, comme le soulignent Paul VI et Jean-Paul II. Et pour cela, Maud, on va essayer d'illustrer aussi un peu ce propos en se rapportant à un texte évangélique de la multiplication des pains. On va dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là? Alors on va peut-être, Maud, d'abord relire quelques éléments de cet évangile et après le commenter en le rapportant à la mission et l'action de l'Esprit.
Voilà, il y avait une grande foule qui était venue écouter le Christ et puis ils n'avaient pas à manger, il faisait tard et ils étaient loin de tout, donc les apôtres s'inquiétaient. Où acheter des pains pour que les gens mangent? Il y a ici un jeune garçon avec 5 pains et 2 poissons. Jésus bénit les pains et les poissons et les démultipliait pour les donner à toute la foule. 5 000 hommes, sans les femmes et les enfants, mangèrent à leur faim et furent rassasiés. Et ils ramassèrent les morceaux de ce qui restait du poisson et du pain, soit 12 couffins pleins.
Voilà, cette parole, cet évangile est très important pour bien montrer que cette mission de nourrir cette multitude, 5000 hommes sans les femmes et les enfants, il devait être au moins 10 000 ou 15 000, je ne sais pas. Toutes ces personnes ont été nourries, bien sûr, par l'action de Dieu, qui a opéré le miracle, mais d'abord parce qu'il y a un jeune homme qui a donné ses 5 pains et ses 2 poissons. Et c'est parce que le jeune homme a donné les 5 pains et les 2 poissons que l'Esprit Saint a agi puissamment et a nourri toute cette multitude. Et même qu'il y en avait qui débordaient, puisqu'il y a eu 12 couffins pleins, un par apôtre, qui a été ramassé. Donc vous voyez combien la parole de Dieu nous montre que l'Esprit Saint, il ne pouvait rien faire, il n'aurait rien pu faire sans que le jeune homme puisse dire oui. De la même manière, le Jésus, fils de Dieu, ne pouvait pas s'incarner si Marie n'avait pas dit oui à l'ange Gabriel.
Nous sommes là dans un mystère que moi je trouve merveilleux et qui en fait nous interpelle chacun personnellement. Comment ne pas écouter cette parole sans être touché? Ce pique-nique, Jésus a demandé, n'a même pas demandé d'ailleurs, c'est le petit garçon qui l'a offert. Et comme le petit garçon a donné son pique-nique, alors tout le monde a pu être nourri. De la même façon, pour l'annonce de la bonne nouvelle, qui suis-je pour refuser au Christ et à l'Esprit Saint de donner mon petit pique-nique, c'est-à-dire mes moyens, mes pauvres moyens, et je les mets au service de Christ dans l'action de l'Esprit, et je sais que ça va être démultiplié et que ça va porter du fruit au-delà de tout ce que je pourrais imaginer.
Et c'est pour cela, Maud, on l'a dit, on a insisté la dernière fois sur le fait que la mission, c'est envoie la mission, même les pauvres et les pécheurs. Et justement, ce pauvre garçon, il a apporté sa contribution qui a été profondément démultipliée. Et je vous assure combien de fois nous avons l'expérience avec notamment des couples, et ben c'est pas les plus savants et c'est pas les plus diplômés qui sont les plus pertinents et qui touchent le plus les cœurs. Et c'est souvent des personnes simples mais qui ont vraiment accueilli le Christ et qui ont une parole vraiment de vérité et complètement décoiffante qui touche profondément et qui évangélise le plus profondément.
Voilà, et l'Esprit Saint vient aussi dans l'annonce nous révéler quels sont nos charismes spécifiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'il va se servir de nous et faire déployer nos talents ou enfouis ou révélés pour en faire des occasions d'annonce et de multiplication. Donc c'est ça qu'on appelle un charisme. C'est pour ça que les papes nous inspirent à être, nous incitent, pardon, à ce que les évangélisateurs soient charismatiques. Charismatiques au sens inspiré par l'esprit. C'est l'esprit qui donne les charismes et c'est l'esprit qui va faire fructifier les charismes de chacun. Alors l'un est prédicateur, l'autre consolateur,
l'autre prophète. L'autre exerce la charité, etc.
Voilà, peu importe, mais les charismes sont déployés et déployés au-delà de la mesure humaine par l'Esprit Saint.
Alors bien sûr, on est bien au-delà de ce qu'on appelle le renouveau charismatique. Mais justement, ce que nous vivons depuis le début de Vatican II, ça a bien été ce qui a été prophétisé par Jean 23. Ce temps de Vatican II sera un temps profond de l'Esprit Saint. Et nous voyons effectivement que l'ensemble des différents mouvements et renouveaux paroissiaux, communautés, etc., qu'elles s'inscrivent dans le renouveau charismatique ou pas du tout, l'Esprit Saint est très important pour elle. Elle a une place très importante dans la louange, dans la formation spirituelle, dans l'édification, dans le processus missionnaire, etc. Cet aspect est très important, dans une immense diversité d'ailleurs, d'expressions de spiritualité, etc., etc. Et donc, il est très important de retrouver pour la mission cette source charismatique de l'Église.
Voilà, alors il y a une citation du fondateur des cellules d'évangélisation qui est intéressante.
Très importante, qu'il faut lire avec beaucoup d'attention.
L'annonce de Jésus-Christ ne devient efficace que si elle est animée de la force de l'Esprit-Saint, que si elle est exercée dans l'exercice humble mais déterminé des charismes où se manifeste cette force. Il n'existe pas d'évangélisation véritable qui ne soit par nature charismatique avant d'être kérigmatique.
Je crois que c'est important là. C'est parce qu'il y a tellement de choses qui sont déployées. Donc ça veut dire que pour que le kérigme, la puissance de la parole qu'on a abordée il y a 2-3 émissions, puisse vraiment pénétrer les cœurs, il faut d'abord que les évangélisateurs aient accueilli la plénitude de l'Esprit Saint. C'est bien ce qui s'est passé à la Pentecôte. Et d'ailleurs, c'est bien ce qu'on avait décrit dans le processus kérigmatique, où d'abord il y a une expérience pentecostale qui bouleverse complètement les apôtres. Donc la puissance de la parole et de la prédication ne peut porter du fruit que si jamais d'abord nous sommes imprégnés et remplis de l'Esprit Saint.
Alors je poursuis. L'annonce n'a pas comme point de départ un discours, une discussion de salon ou une recherche intellectuelle, mais la manifestation est le témoignage du salut, de la conversion de vie, de la guérison intérieure et parfois physique, événement irréfutable de Dieu pour tous. C'est uniquement quand se manifeste l'Esprit Saint qu'on évangélise, sinon tout devient inutile. C'est pourquoi on ne peut évangéliser sans exercer les charismes, ces dons les plus de l'Esprit, des plus simples aux plus extraordinaires.
Voilà, c'est vraiment ce que disait Paul. L'Esprit Saint vient attester, vient conforter la parole qui est annoncée. Et donc c'est important, c'est vrai qu'à un moment dans l'émission, effectivement, on puisse à un moment faire mémoire, souligner que tel ou tel effet, de tel ou tel fruit, parce que l'Esprit Saint atteste la vérité de la parole par les changements de vie, les changements dans les cœurs, ce qui est le plus important de cette, justement, le travail de la conversion. On y viendra, justement, on fera une émission spécialement là-dessus, c'est que la mission, tôt ou tard, doit mener à la conversion, dans la liberté, bien sûr, totale des enfants de Dieu, mais à un moment, si la mission ne conduit pas à la conversion chez un tel ou un tel, c'est qu'il y a un problème quelque part.
Vous aurez compris dans tout ce qu'on essaye de partager depuis le début de cette émission qu'une des tâches essentielles du missionnaire, ça va être de prier pour recevoir l'Esprit Saint et de supplier vraiment l'Esprit Saint de venir, je dirais, prendre possession de tous ses talents pour en faire des charismes au service de l'Église et au service de la mission. Et on peut rappeler quand même ici que les charismes ne se déploient qu'en Église, c'est-à-dire c'est quand on est ensemble que l'Esprit Saint va faire jaillir des charismes pour le service du corps. Et il y a des charismes qui s'exercent au sein même du corps de l'Église, au sein même d'une situation d'annonce, mais pas forcément tout seul dans son coin. Je veux dire, c'est vraiment dans une vision ecclésiale qu'on reçoit aussi la force de l'Esprit Saint.
Voilà, donc au seuil de ces deux émissions sur à la suite du Christ et à la suite de l'Esprit Saint pour être missionnaire, nous nous rendons bien compte que la première condition du témoin, c'est d'abord qu'il ait accueilli, que Jésus l'a sauvé, et c'est pas d'abord un docteur ou un saint. Et ça en va bien sûr la même chose pour un couple. On ne demande pas d'abord à des couples d'être parfaits. Des parfaits bons petits cathos, parfaits sur tous les différents aspects. On demande d'abord qu'ils aiment le Seigneur et qu'ils transforment leur vie au fur et à mesure.
Et nous sommes donc appelés non seulement à grandir vers la sainteté, bien sûr, parce que l'annonce nous conduit aussi à la conversion, on en reparlera, mais surtout parce que nous avons été saisis par la miséricorde du Père, la tendresse du Père pour nous, et l'offrande de la vie du Christ, qui a donné sa vie pour nous sauver, et que l'Esprit Saint va nous permettre de vivre et de rentrer dans ce salut. Et ce n'est pas grâce à nos mérites, mais à cause de la grâce spéciale du Christ.
C'est le Concile Vatican II, justement, que tu cites, Maud, hein. Nous sommes appelés à missionner non en raison de nos mérites, mais de la grâce spéciale du Christ. Voilà, c'est quelque chose qui est il faut avoir foi dans cette parole. C'est pas en raison de nous-mêmes, de nos qualités, etc., que nous avons à vivre tout cela. Voilà. Et en tout cas, nous sommes vraiment des pauvres, tous des pauvres pécheurs. Les missionnaires sont des pauvres pécheurs, mais confiants dans l'immense grâce du Christ. En tout cas, c'est à cette bénédiction que nous vous invitons les uns et les autres. Maud.
Oui, pour être vraiment remplis de l'Esprit Saint et que vous puissiez découvrir chacun et chacune au cœur même de vos vies, là où l'Esprit Saint vous pousse pour annoncer la bonne nouvelle.
Voilà, nous prions vraiment pour vous. Pour chacun des conjoints, chacun de vos familles, de vos enfants, de vos différents lieux d'église, d'engagement, dans vos maisons, afin que ce soit des lieux vraiment de bénédiction, de mission à la suite du Christ et dans l'Esprit Saint. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. The extravagant love of God. The intimate friendship of the Holy Spirit.